Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à faire une première lecture qui va nous donner le principe, ou rappeler le principe biblique, évangélique avant tout, de notre méditation. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, s'il vous plaît, verset 13, alors on va essayer de se souvenir de ce principe, et il va courir un peu dans notre réflexion ce matin. Il vaut pour un personnage en particulier dont nous allons parler. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est consommé, produit la mort. Je voudrais relever ce mot de convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? Alors, on a tous une petite idée, probablement. Ça vous est jamais arrivé? Comme personne répond, je suppose que tout le monde est innocent. Ah oui? Bon, ben c'est bien, j'arrête, hein. Je voudrais vous donner une définition des plus classiques de la convoitise. Écoutez bien. Alors, il n'y a pas de limite, d'abord. C'est le désir immodéré, voire extrême, et sans scrupule, de posséder, de dominer, de posséder une chose ou un être, ça va pour l'un comme pour l'autre, appartenant à autrui. Voilà. Ça va? On va s'en souvenir? Désir immodéré, voire extrême, sans scrupule, de posséder une chose ou un être appartenant à autrui pour en jouir, pour en profiter. On peut y ajouter peut-être ce verbe. Les synonymes, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs en tous les cas, pourraient être avidité, l'avidité, ou alors tout simplement eh bien l'envie. C'est selon, naturellement, et puis il y a différentes graduations dans la convoitise. On pourrait dire il y a les petites et les grandes convoitises. Il y a celles qui aboutissent, et nous avons vu ce que Jacques nous dit, hein, ça conduit à la mort. Ça conduit à des choses qui sont extrêmes, puisque nous avons cité tout à l'heure, la chose. J'aimerais justement illustrer cela, parce que c'est bien, hein, dans la Bible, vous avez les principes, hein, principes et images dans le Nouveau Testament, mais vous avez aussi pas mal d'images dans l'Ancien Testament. Alors, je propose que nous fassions maintenant un détour vers l'Ancien Testament, dans 1 Rois, chapitre 21, et nous allons passer par le détail, c'est-à-dire la réflexion de ce texte. Donc, 1 Rois, chapitre 21, verset 1er, et le verset 5. Pour l'instant, on va s'en tenir à cela, et puis après, je prendrai le détail du texte, hein, ce sera plus facile que de le lire une fois, deux fois, voire trois fois, c'est pas, hein, on va s'en souvenir. Il est dit au verset premier, après ces choses, voici ce qui arriva. Attention. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Le verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Voilà. Alors, ce que je voudrais mettre devant vous, c'est trois personnages atypiques. On peut le dire peut-être de cette manière, trois personnages. Je vais vous donner un peu la signification, le sens, le caractère, la personnalité des uns et des autres, c'est parce que ça va nous permettre de comprendre le reste. Et il y a d'abord le premier cité, il s'appelle Naboth. Savez-vous ce que veut dire Naboth ? Ça veut dire fruit et abondance. C'est bien. Je pense que c'était un véritable israélite, un véritable juif. Et de plus, s'il y a un qualificatif que moi j'ajoute, mais qui transparaît, vous allez le voir avec moi, c'est son intégrité. Un homme intègre. Un homme qui aime Dieu. Un homme qui se plaît à, eh bien, obéir à Dieu. Il aime Dieu. Un homme intègre. Donc, ça va très bien pour un chrétien. Fruits et abondance. Pas des fruits amers, hein, mais des bons fruits, savoureux. Et l'abondance. Je pense que c'est un petit peu la perspective que nous nous donnons. Il y a eu une prophétie ce matin. Avance, passe des eaux et tu verras que de l'autre côté, il y a une bénédiction. Si ça peut être un rappel. Fruit, abondance. Son intégrité morale. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de christianisme sans morale. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que du moralisme. Parce que si on est chrétien et que finalement on se contente, comme beaucoup d'hommes, de femmes, religieusement sont des gens braves et moralistes, c'est pas suffisant. Hein. On a bien marqué que le fait de l'évangile, c'est une transformation radicale de la vie. C'est-à-dire ressembler à Jésus, être comme Jésus, sans être Jésus. Hein. Attention, hein. C'est lui, hein. C'est pas nous. Alors son intégrité morale. Et voilà, à côté de cette présentation de ce Naboth, eh bien, il y a un destin tragique. Alors, on va le découvrir, mais vous connaissez déjà l'histoire de Naboth ? Ouais, ouais, vous l'avez déjà lu, hein, certainement. Donc, il y a un destin tragique, hein, car il va perdre la vie. C'est pas tant enthousiasmant pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous voulons marcher avec le Seigneur, mais il va perdre la vie pour avoir refusé de sacrifier le patrimoine de ses pères au profit d'un caprice royal. Ouah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors c'est pareil, c'est un texte qui est quand même assez délicat parce que bon, il y a des choses qui sont assez ardues à saisir. Hein. Alors les gens qui nous reviennent, hein, qui nous retrouvent, hein, qui viennent peut-être pour les premières fois, soyez rassurés. Hein. Soyez rassurés. Mais il va finalement, eh bien là, refuser au roi. Et on refuse pas un roi, c'est pas possible. Les rois auraient-ils des caprices ? La question est posée, hein. Parce que finalement, eh bien, c'est un homme qui est l'héritier de quelque chose, Naboth. Et de par, les successions de père en fils, il y a des terres, il y a des maisons, il y a toutes sortes de choses, hein. Et il va résister, il va dire non. Parce que dans la vie, il faut savoir dire oui. Quand ça doit être oui, il faut savoir dire non. Et vous savez que l'Ancien Testament, et particulièrement l'illustration de la vigne de Naboth, cette aventure, cette histoire qui nous est racontée, c'est une histoire matérialisée, une image matérialisée. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de récits, des choses que, bon, ils sont accessibles et compréhensibles. Hein. Une vigne, voilà, qui va être volée. Et ça, c'est le côté matériel terrestre. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est le principe que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'image et c'est l'emblème des réalités spirituelles. Et nous allons marcher, en quelque sorte, dans la découverte de notre message ce matin, eh bien, sur les deux plans. L'histoire, la réalité concrète, matérialisée, c'est comme le pays de Canaan pour l'Ancien Testament, et le ciel pour nous, dans le Nouveau Testament, on comprend, hein, je délaye un petit peu, hein, voilà. Donc il va refuser d'une manière catégorique un caprice royal. Et la correspondance, eh bien, je viens de vous la livrer, mais je voudrais la rappeler sous d'autres mots. Ce sont tous les acquis moraux et spirituels du chrétien, c'est-à-dire le trésor de l'évangile et de la foi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une vigne ? Ça vous fait rire ? Pourquoi ? Moi, je suis vigneron. J'ai un domaine très très vaste, j'ai un pied de vigne. Je veux pas vous lâcher avec ça. Hein. Bon. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'on va transposer sur l'image du trésor que Dieu nous a donné par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre foi. Nous avons entendu des louanges il y a un instant. Et dans ces louanges, si j'ai bien écouté, il était question de bénir le Seigneur pour sa grâce, pour son salut, de nous avoir rendus capables, de croire, d'avoir ce trésor qui est la parole de Dieu, d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est ça justement notre vigne, si vous voulez aller par là pour... Parce qu'une vigne, ça donne des fruits, hein. C'est emblématique, la vigne, naturellement. Alors, un trésor de l'évangile et de la foi. Ça, c'est le premier personnage. Le deuxième, vous le connaissez parce qu'on a souvent parlé de lui, et il traîne un peu dans les pages de l'Ancien Testament, mais pas dans le bon exemple. Il s'appelle Akab. Ah oui. Qu'est-ce que je peux dire? C'est le roi d'Israël. Ouais, c'est un roi. Moi, il me fait penser à Akab, à Hérode, et à toute la dynastie des Hérodes, qui était une dynastie de criminels, de manipulateurs, de gens qui, véritablement, usaient du pouvoir pour faire souffrir, pour détruire, s'alliant avec les puissants. Hérode, bah, c'était, ça marchait avec Rome, hein. Enfin bon. Et la capitale, à cette époque, c'était d'Israël, hein. C'était Samarie, hein, la ville de Samarie. Donc, je le dis pour l'histoire. Figurez-vous qu'Hérode, c'est un homme veule. C'est un homme insignifiant. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le présente comme ça. Hein. Tortueux. Intrigant. C'est tout le contraire de l'homme intègre dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis, je dirais qu'il est idolâtre par procuration. Parce que lui, il est juif. C'est un Israélite, hein, Akab. C'est... on pourrait dire le juif charnel, le juif qui finalement ne l'est pas, au plus profond de lui, mais miné que d'apparence, de tradition. Et je dis bien, il est idolâtre par procuration, parce qu'on va parler de quelqu'un d'autre tout à l'heure, hein, qui est près de lui. Et s'il est idolâtre, bon, il n'est pas convaincu de son dieu, qui est le dieu d'Israël, mais il n'est pas convaincu non plus des dieux des païens, hein, c'est pareil, mais il mélange tout. Comme ça lui permet de faire une politique... Comprenez un petit peu d'un côté, un petit peu d'un autre. Hein. Et puis, il est dominé, tout simplement, par sa femme. Ah, messieurs, écoutez bien. Et mesdames, soyez attentives. J'ai une grande déclaration solennelle à faire. Non, non, soyez rassurés. Ça se passe bien. Ouais, dominé par Jézabel. Et elle aussi traîne dans les pages de la Bible, jusque dans le livre de l'Apocalypse. « Ce que j'ai contre toi, dit l'Esprit à une des églises primitives, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel à détourner mes serviteurs. » L'exemple était là, il est devant nous aujourd'hui, mais il est là aussi dans les dernières pages de la Bible. Et nous voyons que elle abuse, et lui aussi, ils abusent tous les deux, le roi, la reine, ils abusent de leur position et de leur pouvoir. Et ils sont le type, que ça n'arrive jamais, ils sont le type de ceux qui s'imaginent, oui parce que c'est dans leur tête mais ils y arrivent, hein, qu'ils peuvent tout se permettre. Et il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que notre histoire c'est une histoire criminelle, hein. C'est maigrer avant l'heure, hein. On va voir. Oui, un crime, et un crime odieux. Je le rappelle, c'est un voleur, Akab, parce qu'il se dit, moi, je suis le roi, c'est pas du vol, je me sers. Bon, c'est quand même une moralité assez limite. C'est un malhonnête. On pourrait dire, mais c'est une expression qu'on n'emploie plus, c'est un triste sire. Ouais, vraiment, triste sire. Et puis nous en arrivons naturellement, après avoir parlé de Naboth, d'Akab, et bien nous en parlons de Jézabel. Jézabel, comment pourrait-on la décrire? Peut-être que le mot, parce que dans tous les commentaires et dans la Bible, je crois qu'on peut lui donner cet adjectif de femme maudite. C'est terrible, il y a eu des hommes maudits, hein, parce que bon, on vient de parler de son mari, mais il y en a eu d'autres. Hein. Mais on pourrait parler de la femme maudite, méchante, Et elle est épouse du roi. C'est une princesse du pays d'à côté qui s'appelle la Phénicie. C'est le Liban aujourd'hui, vous comprenez? Qui était la première, une des premières puissances au monde à l'époque. La Phénicie, les Phéniciens, qui avaient conquis tout le bassin de la Méditerranée par leur commerce, entre autres. Et nous voyons qu'elle était donc fille, elle était princesse, mais elle est devenue reine en s'alliant avec, naturellement, Akab, ce qui n'aurait jamais dû épouser une étrangère de toute façon, mais bon, c'est comme ça. Et c'est elle qui va, entre autres, mais d'une manière intense, introduire le paganisme dans le pays de Dieu. Le paganisme, l'occultisme, la magie, ça existait déjà, hein, c'est sûr. Mais bon, il y avait déjà des amorces, mais là, c'était complet, hein. Le paganisme dans le pays de Dieu, dans le peuple de Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu devant ma face. Premier des 10 commandements, naturellement. Et il y avait particulièrement, eh bien, le Dieu en Phénicie, mais dans toute la Palestine, dans tout cette partie de l'est de la Méditerranée, le Dieu Baal. Ah ouais. Le grand rival du Dieu d'Israël, Baal. Ça veut dire la lune, hein. La lune. Et Baal avait des adorateurs. Entre autres, il y avait, eh bien, Jézabel. Parce que dans son pays, c'était Baal. Elle est venue en Israël, elle a trouvé le Dieu d'Israël. Elle a trouvé le Dieu des Juifs. Alors, il y a quand même une différence. Et elle a introduit des faux prophètes. Vous connaissez l'histoire du Mont Carmel avec Élie? Eh ben, c'est ça. Parce que Élie vivait à la même époque, hein. Je peux vous dire que là, elle a ramassé une drôle de leçon avec Élie, hein. La puissance de Dieu rivale avec, Baal, et puis ça c'est terminé. Et nous voyons que Akab, le juif, laisse faire parce que c'est Jézabel. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la volonté, il n'a pas la capacité de dire, écoute, tu me laisses faire, hein, quand même, je suis le roi. Il peut pas. C'est tout, hein. C'est comme Hérode quand il a été avec Salomé, et qu'il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Hein. Alors là, il paraît que c'était aussi la faiblesse, hein, le laisser faire. Ce que j'ai contre toi, nous dit le livre de l'Apocalypse par rapport à l'Église, c'est que tu laisses la femme Jézabel corrompre mes serviteurs. Ben là, on voit que c'était un juif et on connaît. Alors, elle va favoriser de toute sa force et de toute son imagination, Jézabel, elle va favoriser et elle va conspirer soutenir les entreprises criminelles de son mari, le roi Akab, et tout simplement dans le but de supplanter en Israël la foi en Dieu, Yahvé, et le remplacer par le culte de Baal. Tout simplement. Quel renversement de situation, hein. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, hein, comme histoire. Eh oui, étonnant de voir, mais si vous le mettez en parallèle, le christianisme de nos jours aussi a ses Baals. Il a aussi ses idoles. Il a aussi ses détournements. Il a aussi ses fausses doctrines. Naturellement. Je le rappelle, hein, on ne vit pas dans l'Ancien Testament ici. On vit dans le Nouveau Testament. Et les paroles de Jésus, comprises et véritablement vécues dans l'esprit, c'est tout autre chose qu'une religion. Autre chose, naturellement. Et c'est une abomination pour Dieu, tout ça. Voilà, une abomination. Alors, il y a en Israël toutes sortes de hauts lieux. En hébreu, haut lieu, c'est Bahama. Et ça veut dire endroit vain, lieu qui n'a pas lieu d'être, qui ne sert à rien, c'est du vent, en quelque sorte. Ce qui montre bien la signification de ce que les gens, lorsqu'ils font des prières, des adorations, là, vers ce Dieu-là, ou les dieux d'hier et d'aujourd'hui, c'est comme c'est du vent, c'est rien du tout, hein. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité, hein, et non pas avec toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Et elle est aussi, une fervente pour avoir les faveurs de son dieu Baal, des sacrifices d'enfants, hein, des holocaustes d'enfants. Il va y avoir des bûchers partout. C'est terrible, hein. Ça va, c'est bon? Oui, ça va, ça va. Maintenant, je voudrais arriver à l'histoire, au fond de l'histoire. Parce que bon, on a présenté les personnages, mais c'est quand même intéressant. Il y a dans ce récit une vigne qui appartient à tel homme, et elle est convoitée parce qu'elle est la propriété ancestrale à demeure de tous les siècles de Nabat, et elle juxte le palais royal. Voilà. Hein. Elle se trouve, bon, il faut remettre ça dans le contexte de l'Antiquité, naturellement, une belle vigne, Nabot, en est le propriétaire, et puis elle se trouve finalement, là, mitoyenne avec le palais royal. On peut s'imaginer que notre brave Achab, de temps en temps, en disant, dis donc, il a quand même quelque chose, moi que j'ai pas, hein. Il a de beaux raisins, il a une belle vigne, il l'entretient bien, il y a de la surface, c'est formidable, elle pousse bien sa vigne, hein. Alors plus il la regarde, plus il en a envie. Parce qu'il y a peut-être une idée derrière la tête, hein, peut-être de faire du millésime, je ne sais pas moi, hein, ce que ça sert à ça, si c'est pour regarder les feuilles, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Alors, le verset 1 à 4, et je vais le relire, nous dit ceci. « Après ces choses, voici ce qui arriva, Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël du côté du palais d'Akab, roi de Samarie, et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Changement de destination. Car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Clair, net et précis. Brave Achab, il voulait pas trop se déplacer pour aller à son potager. Il se dit, j'ai juste à franchir le mur et puis j'y suis. C'est plus pratique. Bon. Enfin, quelques considérations qui n'ont rien à voir avec ce que notre histoire. Il y a là un deal qui va se faire. Oui. Une illicite transaction qui vient naturellement d'Akab sur le fond de spoliation immobilière. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de ce genre de choses aujourd'hui dans notre temps, non? Non, c'est assez rare, hein. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Voilà. Spoliation immobilière. Mais! Le problème, c'est pas d'acheter, de vendre, et puis de faire des échanges, etc., etc. Non, le problème, c'est que Achab, lui le juif, l'israélite, roi d'Israël, enfreint à ce moment-là, mais il n'en a rien à faire, il s'en moque complètement éperdument, il enfreint gravement la loi héréditaire de ce que Dieu avait demandé à Israël par la bouche de Moïse. C'est ça. Alors il viendra le voir et lui dira « Vends-moi ta vigne, je te donnerai la place, je te paierai. » Il multiplie finalement tout ce qui pourrait incliner une certaine forme de cupidité chez Naboth, mais il n'y a pas de cupidité chez Naboth. Naboth connaît lui la loi et il se dit tout simplement « Non, je ne me laisserai pas déposséder de ce que Dieu nous a donné, nous, ma famille, mes pères, etc. etc. » Et je rappelle, c'est qu'il était strictement interdit à un Israélite d'aliéner, un bien ou son bien héréditaire, c'est-à-dire immobilier, hein, de famille, pour le céder à autrui. Ça, vous trouvez ça, si vous voulez la référence, je ne vais pas la lire, mais c'est dans Nombre 36, verset 7. Tu, toi, l'Israélite, tu ne feras pas ça. Ce que tu possèdes de père en fils, tu le garderas parce que le nom va se perpétuer. Tout simplement. Donc, ça c'est l'Ancien Testament, on est d'accord, mais il y a toujours la même leçon qui surgit. Parce que la leçon est encore pour nous, même dans ces valeurs que nous sommes en train de parler, c'est encore pour nous une vérité que je voudrais encore illustrer et mettre en valeur. Écoutez bien, comme Naboth, sommes-nous prêts à nous battre, à lutter, corps et âme, si vous voulez, pour préserver les valeurs chrétiennes évangéliques qui sont menacées de nos jours. Quel prix pouvons-nous payer? Est-ce que nous sommes prêts finalement à dire, moi, je crois en Dieu, je veux rendre un témoignage avec douceur de la grâce que Dieu m'a donnée, mais je ne capitulerai pas, je ne céderai pas, parce que les tentations, elles sont nombreuses, hier comme aujourd'hui. De rétrograder. On peut peut-être dire le mot, mais de rétrograder. Sommes-nous prêts à nous battre et à affirmer nos valeurs? Non pas nous battre comme de beaux diables en disant c'est moi qui ai la vérité et vous êtes dans l'erreur. C'est pas ça, hein. Mais de dire, moi je tiens ferme sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Sur la grâce qu'il m'a donnée. Je sais d'où je viens. Il m'a retiré du bourbier et aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Et s'il y a une dignité en moi, c'est pas la mienne, mais c'est la sienne. Et je me bats pour ça. Je garde la parole de Dieu. Je crois aux valeurs et au don du Saint-Esprit. Je crois aux valeurs de la prière, de la foi. Pas la prière toute simple, la prière de la foi. Je crois également à la réalité de la communion fraternelle, comme dans l'Église primitive. Je crois que ce que Dieu m'a révélé, eh bien, c'est un trésor, c'est une vigne, si vous voulez aller par là. Hein. Ces valeurs, aujourd'hui, faut-il le rappeler, sont bafouées, sont décriées, elles sont édulcorées, elles sont salies, elles sont dévaluées, elles sont ridiculisées dans notre monde. C'est vrai, nous le voyons. Elles ont été complètement altérées, déformées par des fausses doctrines, par des faux docteurs, par toutes sortes d'excentricités, par toutes sortes de choses. Jésus nous donne, eh bien, l'équilibre dans tout cela. C'est pas de partir, eh bien, finalement, eh bien là, dans toutes sortes de dérives, dans toutes sortes d'illusions, de rêveries, et dans toutes sortes d'extrapolations ou de spéculations, c'est de garder véritablement la ligne, de garder la ligne médiane, et de vivre une vie où Jésus nous dit et nous rappelle, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Hein. Mais bien sûr, et faut-il le dire encore ça aujourd'hui, lorsque nous voyons, même dans nos milieux évangéliques, où quelquefois ça part en sucette, excusez-moi, hein. Soit dans un sens d'un légalisme impossible, ou alors, soit dans le sens d'un libéralisme qui finalement, eh bien, c'est le monde, hein. Nous tenons ferme. Naboth était un homme intègre et qui tenait ferme sur l'héritage de ses pères, sur cet héritage patrimonial. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Dieu nous a donné un héritage. Et encore, nous le voyons que encore à distance aujourd'hui, parce que de l'autre côté, ça va être quelque chose. Hein. Et là, mais il n'y aura plus de discussion de toute façon. Il n'y aura plus d'Akab. Mais sur cette terre, il y a des Akab. Il y a des Jézabel qui sont là en train de polluer, de faire toutes sortes de choses, et qui sont en train d'exploiter plutôt la chair que l'esprit. Les convoitises des hommes, voire même les convoitises des chrétiens. L'orgueil, l'envie. Une vie que l'on présente, eh bien là, plus spirituelle que d'autres, etc., etc. Hein. Vous savez, quand on veut faire l'ange, hein, on fait souvent le contraire. Soyons ce que nous sommes et vivons dans l'équilibre de ce que le Seigneur nous a donné. Pas en nous mesurant ou en mesurant notre vie, en conduisant notre vie avec sa parole, mais une bonne interprétation qui est celle de l'esprit. Parce qu'autrement, la parole, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Ouais. Un choix difficile, il faut le reconnaître. Un choix difficile pour les chrétiens. Pour les chrétiens de longue date, qui quelquefois peuvent se décourager, se démoraliser, se fatiguer après des années de vie chrétienne. Et puis il y a aussi peut-être tous les nouveaux qui nous rejoignent. Et quand ils regardent le chemin, ils se disent « Oh là là, c'est pas possible !» Oui, c'est possible. Et puis, il y a tellement de tentations de différentes natures. « Ah oui, je pensais que... » Si on vous a présenté un évangile à l'eau de rose, permettez-moi de dire que vous n'allez pas aller loin. Si on vous a présenté un évangile où il n'y avait pas de cailloux, où il n'y avait qu'une autoroute, qu'il n'y avait aucune difficulté, là... Mais le choix est difficile, c'est vrai, parce qu'il faut le vouloir, il faut engager notre volonté. Lorsque nous avons fait cette promesse que nous nous engagerons à aimer le Seigneur, à le servir tous les jours de notre vie dans les eaux du baptême, que le Seigneur nous le rappelle de temps en temps. Hein. Vous savez... Dans l'histoire des églises, l'histoire même de cette église, il y a beaucoup de gens qui ont fait une belle profession de foi, admirable, magnifique, et qui aujourd'hui ne sont plus là parce qu'ils ont entendu, le chant des sirènes, hein, et à un moment donné, dans leur faiblesse, eh bien, ils ont cassé, c'est dommage. Ça peut nous rappeler toute notre fragilité à nous, en tous les cas. Choix difficile quand on sait qu'il est si facile d'abaisser le niveau de notre vie et les normes de notre fidélité à Dieu. Vous savez que Roboam avait changé les boucliers d'or de Salomon en boucliers d'airain. Voilà. Et ça n'a pas donné la même chose, parce que de l'or c'est de l'or et de l'airain c'est de l'airain. Eh bien c'est pareil, nous sommes dans un monde où les tentations sont grandes, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Même les tentations par rapport à l'argent, par rapport à toutes sortes de choses qui sont là, nécessaires peut-être pour vivre, mais... J'ai appris à être content de ce que j'avais, de ce que j'ai, nous dit Paul. C'est le Seigneur qui fait tout. Mourir ou renier, ça pourrait être là, On pourrait peut-être dire ça, mais c'est ce qui est dit quand même dans le livre de l'Apocalypse. Dans une église qui était pauvre, une église qui était petite, une église qui avait du mal, écrit à l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, dont Jésus est toujours vivant. Je connais ton affliction, tes peines, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui reclament à Achab. Mais c'est une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et la conclusion, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne de vie. Oui, frères et sœurs, c'est ça ce qui nous est promis. Ça paraît très nébuleux, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous sommes tous des princes et des fils de rois, hein, en tous les cas, dans ce que la Bible nous dit. Alors Naboth refuse catégoriquement, et on le dit, Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ah, mais ça va pas se passer de cette manière. En tous les cas, l'attitude de Naboth illustre à dessein le trésor et la valeur inestimable du salut, de la foi et la mission du chrétien qui est la nôtre, qu'il nous faut garder à tout prix, ni vendre notre héritage spirituel et encore moins se le faire voler. Parce que là, il s'agit d'un vol. On peut garder les choses et on peut se le faire voler. Hein. Vous savez que le diable est un voleur. Il est appelé le ravisseur. Oui, vous savez, hein, ceux qui sont des mercenaires. Eh oui, tout simplement. Et Paul l'illustre bien quand il parlera des valeurs qui sont les nôtres. Il parlera du mystère de Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous vous rendez compte de ce que nous pouvons bénéficier dans la méditation de la parole et le partage que nous avons, là, lorsque nous nous retrouvons ensemble, réunion, prière, évangélisation et culte. Trésor de Christ dans la connaissance et dans, eh bien là, la sagesse. Et Paul va surenchérir, il dira, et vous avez été racheté à un grand prix. Vous vous souvenez que vous avez été racheté à un grand prix, que nous sommes rachetés à un grand prix. C'est le prix du sang. On l'a lu, on l'a chanté tout à l'heure, hein, naturellement. Et un peu plus loin, je crois que c'est Pierre qui dit ça, et vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Alors on va voir la suite. Verset 4. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de la parole que lui avait dite Naboth. Pardon. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Boudi Bouddha. Il fait du lard. Je ne sais pas de quelle composition il était, ce bonhomme, mais toujours est-il que il n'est pas content. Il est capricieux. Tout simplement. Parce qu'on lui a refusé, figurez-vous. Vous les connaissez? Qui veut me donner sa voiture? Ce matin, vous n'avez pas une voiture neuve, hein? Eh oui. Oui, mais celle-ci, elle a été réparée là dernièrement, je vois. Oui, vous voulez me la donner? Parce que moi, depuis des années, je roule en vélo. Hein. Non, non. Et vous allez me dire non, et moi, je suis contrarié. Parce que c'est pas normal que vous me refusiez, moi le pasteur. Et faites vite. Et vous savez pourquoi. Bon, c'est un petit clin d'œil, hein, mais quand même, j'ai pas demandé à ma femme, je sais pas si elle est d'accord. Mais bon. Achab est contrarié fortement au plus haut point, naturellement, et il est susceptible. Ouais. Il est susceptible. Vous savez ce que c'est que la susceptibilité? C'est de prendre tout mal. Même quand les choses sont bien dites et bien faites, wow, là là. Et la frustration d'un refus, le refus de Naboth, l'entraîne vers, je veux dire, la folie. Vous savez qu'il faut qu'on soit régénéré, hein, les frères et les sœurs. Hein, parce que vous savez, on sera pas mieux que dans le monde. On était comme ça dans le monde. Mais on peut y retourner. Attention à la susceptibilité. Oh, il m'a dit ceci, mais vous rendez compte à moi? Moi qui suis le meilleur des chrétiens, vous rendez compte? Mais il ne me connaît pas. Ben justement, s'il l'a dit, c'est qu'il connaît bien. Hein. Wow, susceptibilité et sa frustration, parce que la frustration, c'est quelque chose de terrible. Ça, je peux vous dire que c'est charnel, hein. Pur jus, hein. Pur sucre. Sa colère, à ce moment-là, présage le drame qui va arriver. Et nous voyons que Jézabel s'en mêle, parce qu'elle se mêle de tout. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Mon chéri Akab, il y a des façons de faire les choses, hein. Pourquoi as-tu l'esprit triste aujourd'hui et ne manges-tu point? T'as plus d'appétit ?» Et il répondit « J'ai parlé à Naboth et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Et il m'a répondu « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Point final, la porte est fermée. Il s'est coincé les doigts dans la porte. Et ça, il n'encaisse pas. Et sa femme, eh bien, va avoir une idée géniale, mais mauvaise. Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? T'es le roi ou tu ne l'es pas ?» Hein ? Bon. « Lève-toi, prends de la nourriture. » Et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Ce que lui ne peut pas faire, elle va le faire. Mais sans hésitation. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, pas la cupidité, mais la convoitise, hein, c'est sans scrupule. Hein. Pas de problème. Tu es le roi ou tu ne l'es pas? Faut savoir. Hein. Maintenant, c'est le moment de le prouver. Hein. Alors, vous savez que même parmi nous, les chrétiens, l'orgueil blessé, s'imagine et peut conduire au pire. Bon, moi je suis petite Jean, c'est vrai, je suis pas roi. Hein. Mais c'est vrai que quand ça arrive à des niveaux un petit peu plus de, quand les gens sont élevés en dignité, vaut mieux faire attention, hein, naturellement. Hein. Et comme on le dit très souvent, selon cette maxime, la fin justifie les moyens. J'obtiens, mais peu importe la manière dont je l'obtiens. On l'a appris ça, hein, naturellement. Et quelquefois, les moyens les plus indignes. Et c'est terrible. Alors, on le voit, et je voudrais quand même le lire. Elle écrivit au nom d'Akab, c'est pas son nom, mais c'est au nom de son mari, des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, elle fait tout, hein, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville, c'est-à-dire Israël. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publie un jeûne. Ça part bien, hein. Ça a l'air d'être bien. Ouais, voilà, on va mettre les choses sous le couvert religieux, c'est très bien, ça couvre bien les choses. Hein. Placez Naboth à la tête du peuple, honorez-le, faites semblant, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu, puis mettez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Ah, on comprend mieux là maintenant? Ouais, c'est clair. Aux grands mots, les grands remèdes. La petite contrariété du roi Akab. Voilà. Et là, à côté, finalement, eh bien, d'une conspiration pour tuer un homme intègre. Hein. Un homme de Dieu. Oui. Les grands remèdes. Parce que le levier du pouvoir, et c'est là où c'est dangereux. Le pouvoir politique. Je fais pas de politique. Hein. Le pouvoir religieux. Peut-être même parfois le pouvoir spirituel. Ah oui, au nom de Dieu, je te dis. Ben moi, j'ai toujours, s'il lui a dit à lui, il faut d'abord que le Seigneur me le dise à moi. Parce que ça me concerne. Ça, c'est l'histoire un petit peu des prophéties qui se baladent un peu dans tous les sens. Et qui, quelque part, sont pas des prophéties de bénédiction, mais de jugement. La prophétie, je le rappelle, elle exhorte, elle console et elle enseigne. Elle ne condamne pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a écrit. Comme ça, moi, je me couvre. Ouais, le levier du pouvoir est activé. Et la solution est expéditive, vous l'avez compris, et sans appel. Il y a là derrière une manipulation. Elle va soudoyer les anciens de la ville de Jizréel. Il y a là une accusation d'une grande gravité. C'est terrible. Tout simplement, une accusation éhontée. Et bientôt, une exécution. Parce que le crime use et abuse de tout ce qui est possible. On ne recule de rien pour éliminer quelqu'un qui est gênant. N'est-ce pas ce qu'on a fait à Jésus? Lui qui a dit la vérité. Le premier qui a dit la vérité sera exécuté. Dixit Guibéard. Bon, pour anéantir l'obstacle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait dit de faire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple, et deux méchants hommes vinrent se mettre à la tête en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. C'est quand même une drôle d'histoire, hein. Nous voyons que tous ces gens, anciens notables de la ville de Jisréel, sont pitoyables dans leur soumission, mais leur condition d'obéir au doigt et à l'œil à Jézabel est inspirée par la peur. Vous savez, quand la peur règne, c'est terrible. Et nous ne sommes pas sous le régime de la peur, nous sommes sous le régime de la grâce. Et si nous faisons les choses, nous ne les faisons pas par devoir, nous les faisons par amour. Et ça change tout. Mais là, c'était pas le cas. Hein. Il nous est dit qu'ils agirent comme Jézabel le leur avait dit de faire. Deux faux témoins à la barre, inspirés par le diable. Ainsi de tout temps. C'est ce que nous constatons dans l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël. De tout temps, les crimes pour éliminer la foi ont été légion. Jésus, Étienne, Jean-Baptiste, Jacques, apôtre ou disciple de Jésus, il y en a d'autres. Mais Jésus nous rassure quand même, hein, parce que quand il nous dit dans Matthieu, tressaillez de joie, soyez dans la joie, lorsque l'on vous accusera et qu'on dira de vous, à cause de moi, toutes sortes de choses. C'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes. Naboth, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète si on veut aller par là. Ben, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ils l'ont tué tout simplement. Hein. Et là, nous arrivons à la fin de notre méditation. Nous allons voir la solution qui va en ressortir. Donc, ils ont publié un jeûne. Ils ont placé Naboth au bon endroit où il fallait. Et ils ont dit, Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut le pauvre. La fin tragique des amis de la vérité. Je pense que nous devons être amis de la vérité. Nous sommes des amis de Jésus. Jésus est notre ami. Il est notre frère. Il est notre sauveur et seigneur. Ouais. C'est ça ce que nous sommes. Je ne vous appelais plus maintenant, finalement, des disciples. Je vous appelle mes amis, nous dit Jésus dans l'évangile, tout simplement, dans l'évangile de Jean. Et voilà que le sang va couler. Le sang de Naboth. Et les arguments sont implacables. Et c'est le mensonge. Il a maudit Dieu et le roi. Nous l'avons tous vu. Nous l'avons tous entendu. Il suffit qu'il y en ait quelqu'un de dérangé, là, Jézabel. Et voilà, tout le peuple dit, mais Naboth, alors que peut-être, certainement, c'était un homme, comme Job en son temps, qui était intègre et droit, et qui... Mais là, d'un seul coup, ça se retourne. Regardez les miracles de Jésus, les œuvres d'amour, les œuvres prodigieuses. Tout le monde applaudit Jésus pour rentrer à Jérusalem. Et deux jours après, tout le monde est en train de crier, crucifie, crucifie-le. L'homme est tellement versatile, il peut changer d'avis parce qu'il suffit, et vous savez, aujourd'hui dans notre monde c'est la même chose, hein. Il y en a qu'un qui crie à la mode, et tout le monde va suivre la mode, et tout ça, et ceci et cela. Je suis pas contre, hein. Je suis pas contre, parce que bon, moi aussi je suis la mode. Mais je veux dire qu'il y a des modes. Il y a des choses qui sont quelquefois, mais d'une, je sais pas, ça pose des questions, ça interroge. Mais pourquoi tout le monde fait la même chose? Pourquoi les gens vont changer spontanément parce qu'il y en a un qui a crié ceci, il y en a un autre qui a crié cela? C'est les moutons de Panurge, hein. Vous connaissez les moutons de Panurge? Ah oui, celui qui suit. C'est pour ça que Pinocchio avait un grand nez. Il a maudit Dieu et le roi. C'est le même scénario que celui de Golgotha, je viens de citer. Je peux me permettre de vous raconter une petite histoire maintenant? Attention, c'est sur le mensonge. Il a maudit Dieu et le roi. Un homme, un jour, va à la pêche. Ça vous arrive? Vous êtes des pécheurs. Tous. Donc, je reprends. Un jour, un homme va à la pêche, mais il revient bredouille. Quelle déception. Il ne mange pas, il est tourmenté, il est comme un cab. Voilà, tout simplement, il revient bredouille. Alors, il lui vient une idée saugrenue, l'idée de passer chez le poissonnier. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? Alors, il va chez le poissonnier qu'il connaît, et il demande deux beaux, superbes poissons, de toutes les couleurs. Enfin, c'était pas des poissons rouges, mais des beaux poissons que l'on mange, hein. Voilà. Alors, des beaux, comme ça. Et là, il va dire au poissonnier ceci. Monsieur, s'il vous plaît, lancez-moi les poissons. Poissonnier de l'autre côté du comptoir, et lui, lancez-moi les poissons. Parce que comme ça, je pourrais dire à ma femme que je les ai attrapés. Pas mal, hein? Eh oui. Alors, c'est pour tous les pêcheurs du monde. Surtout, ne faites pas ça. Votre femme n'y verra rien, mais quand même. Parce que ça, c'est un gros mensonge. Le mensonge d'Acab. C'est un gros mensonge sur un lit de demi-vérité. C'est sûr qu'il les a attrapés. Mais pas comme ça. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est la suivante. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Il était content. Hein. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Acab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth, de la vigne de Naboth à Jisréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Acab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre dans la vigne de Naboth afin d'en prendre possession. Moralité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est terrible, hein? Ouais, c'est terrible. Vous savez que le diable a voulu prendre possession du royaume de Dieu en crucifiant Jésus, en le faisant mourir. Ouais, il y a eu la séduction dans le désert. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai ceci et cela, voilà. Et puis après, il y a eu tout ce que nous connaissons autour de la passion, la trahison de Judas. Il y a eu le jardin de Gethsémané, si c'était possible que cette coupe, la tentation du diable. Et puis là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, toutes sortes de choses, toutes sortes de pressions pour justement empêcher l'œuvre de se faire. Et Jésus n'a vécu que des embûches, hein, continuellement. Mais là, on le voit illustré à travers tout cela, hein. Je tire cette conclusion, si vous voulez bien. Dans le livre de Michée, il est dit ceci. C'est important, hein. Important. Chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, au temps de Jotan, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Tiens, ça tombe bien, parce qu'Achaz, c'était le roi de Samarie. Israël à Samarie. Écoutez, vous peuples, soyez attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre toi. Le palais de la sainteté. Je me suis trompé, c'est le chapitre 2. Mais c'est pas grave. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. C'est ce qu'il a fait, hein, lorsqu'il n'était pas content, là, dans son lit. Hein. Au point du jour, il l'exécute. Ce qui s'est passé. Quand ils ont le pouvoir en main, ils l'avaient. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est ce que nous avons dit ce matin. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné un héritage. C'est pas matérialisé, mais c'est spirituel. Eh bien, mes frères et sœurs, faisons attention de ne pas nous faire voler ce que Dieu nous a donné. Par des imprudences, par des inattentions, par des négligences, enfin tout ce que vous voudrez. Faisons attention de ne pas brader ce que Dieu nous a donné, parce que c'est le plus grand de tous les trésors. Ça vaut plus que la vigne de Naboth, c'est un trésor pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. et te remercier pour ta parole. Elle est pleine d'images. Elle est tellement emblématique, Seigneur, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous croyons, Père éternel, que tous ces histoires, ces récits, sont là pour nous montrer qu'en effet, encore aujourd'hui, eh bien, notre Dieu nous a placés, Seigneur, dans son royaume, le royaume de Dieu dans nos cœurs. À travers le salut, la foi, à travers les bénédictions, la guérison peut-être même miraculeuse qu'il nous a donnée, et les choses extraordinaires qui ont bouleversé notre vie. Eh bien, donne-nous, Seigneur, d'avoir des âmes comme celle de Naboth, dans l'intégrité, et de dire, eh bien, le plus grand trésor que j'ai pour moi, c'est de connaître Dieu et c'est de vivre pour Dieu. C'est d'être sauvé par Jésus-Christ. David dira et l'écrira dans un psaume, « Mon Dieu, mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Eh bien, c'est ça, Seigneur. Toi, Jésus, tu es mon souverain bien. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ton salut. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci pour l'Église. Merci pour toute la communion fraternelle que tu nous donnes de partager les uns avec les autres. Et nous pouvons partager, Seigneur, ces trésors entre nous. Alors nous nous réjouissons, Seigneur, dans la vigne de notre Dieu. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu leur donnes, Seigneur, pour demain, pour les temps qui vont venir, de ne pas brader, de ne pas capituler, de ne pas céder, de ne pas baisser les bras, parce que ça leur a été donné et c'est leur trésor inestimable. Alors merci Jésus, merci mon Sauveur bien-aimé, bénis ton peuple. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.